nouvelle escale dans le tour du monde de Thierry Georges. Suivez le guide, c'est tout de suite sur RCF.
Degemermat et Braise, bienvenue en Bretagne.
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. La péninsule bretonne est située entre la Manche au nord, la mer Celtique et la mer d'Iroise à l'ouest, le golfe de Gascogne au sud. Elle forme ainsi le sommet nord-ouest de l'hexagone français. Le nom de Bretagne est issu du latin Britannia, utilisé dès le 1er siècle par les Romains pour désigner la Bretagne insulaire ou Grande Bretagne. La Bretagne, ce sont 4 départements, 22 les Côtes d'Armor, 29 le Finistère, 35 l'Ille-et-Vilaine et 56 le Morbihan. Suivez le guide, réalise presque un sans faute, 3 sur 4 pour la série, mais uniquement dans le Finistère pour cette émission, qui sera la dernière à Brest, à la PAM, la papeterie armoricaine de Morlaix, mais à Brest, un tiers lieu dans une ancienne imprimerie, avec l'un des cofondateurs, Ronan Karadec. Mais aussi au Conti, hôtel spa 4 étoiles, de style art déco avec sa directrice Rosane Parer. Nous avons également un rendez-vous nature avec Serge Carquat, ornithologue, dessinateur, photographe animalier, auteur de livres sur les oiseaux, sur la presqu'île de Crozon.
Bonjour, je suis Serge Carquat, je suis ce qu'on appelle un ornitho de terrain.
Un ornithologue?
Non, ornithorynx. En fait, je ne suis pas un scientifique, mais je travaille...
On dit ornitho, ça suffit.
Voilà, c'est oui. Ça, ouais. Moi, ça me semble plus un terme plus rond qui va bien avec ce que j'essaye de présenter. Et donc, je circule un peu dans le coin pour présenter un beau public ce qu'on peut trouver encore comme oiseaux et puis essayer de les rallier à la cause environnementale. Voilà.
Mais pour vous, Serge, quand même, les oiseaux, c'est une longue histoire. Hein.
Ah, ça, pour être une longue histoire, c'est une longue histoire. Oui, j'ai commencé à dessiner les premiers oiseaux au début des années 80.
Qu'est-ce que j'ai lu que gamin, vous étiez fasciné par les dessins qui étaient réalisés par...
Ouais, c'était mon parrain.
Par votre parrain, voilà.
C'est ça, ouais. Qui était militaire, et donc qui était très absent, et puis qui dessinait au crayon de couleur déjà, donc ce qui m'a sans doute mis le pied à l'étrier, puisque j'ai beaucoup bataillé pour le monde du crayon de couleur, et le crayon de couleur à une certaine époque.
Ouais. Vous ne vous lassiez pas de regarder ces dessins?
Quand on est gamin, on s'accroche sur des choses et je trouvais qu'il y avait... Bon, c'était beaucoup des oiseaux exotiques qui présentaient comme le tétralyre, des oiseaux un petit peu asiatiques, pour beaucoup, avec des couleurs extraordinaires. Et ça m'avait sensibilisé et bah, c'est vrai qu'après, j'ai essayé de porter les couleurs du crayon de couleur au niveau national. Et puis
vous êtes fait sponsorisé par une marque de crayons de couleur?
Ah oui, oui, j'ai travaillé avec Comté à Paris. J'avais fait les dessins de l'époque sur les boîtes, les premières boîtes métalliques de chez Comté. Il y avait mes dessins dessus.
Ah oui, voilà. Vous continuez à dessiner?
Ah bah oui, ça c'est sûr que je continue à dessiner. Je dessine des oiseaux, mais je dessine aussi autre chose. Et puis.
Et vous les photographiez aussi?
Au début, je photographiais les oiseaux pour les dessiner, et maintenant c'est un mixte. Il y a des oiseaux que je photographie, puis ça ne me vient pas l'idée de les dessiner, parce que l'image que j'ai faite en photo est suffisante. Hein. Si je vous montrais les derniers trucs que j'ai faits, peut-être vous auriez du mal à reconnaître un oiseau. Mais bon, voilà,
Ils sont plus abstraits?
Oui, beaucoup plus abstraits. Ouais. J'ai toujours été fasciné par Mondrian. Au niveau de l'oiseau, je me suis mis il y a longtemps que je chemine avec une structuration.
Donc, votre dessin a cheminé aussi.
Voilà, ouais. Et je me suis enfin décidé à faire de l'abstraction à partir d'un oiseau.
Bon, ils sont contents, les oiseaux?
Ah, ça, je sais pas, je leur ai pas demandé. Bon, apparemment, ils ont pas l'air trop mécontents.
On va manifester.
Ouais, voilà. Ouais. Les deux huîtriers pie qu'on a devant nous, là, qui sont en train de faire leur toilette, là, je sais pas si on leur demande. Je suis un petit peu, comment dire, pas objectif dans cette affaire-là, parce que j'ai pas encore dessiné l'huîtrier pie en complément abstrait, donc du coup...
Mais quand vous êtes quelque part, vous avez une espèce de laser, enfin, je sais pas quoi, dans votre regard, qui fait que quand certains vont voir une maison, ou je sais pas, même un toboggan vert, vous allez tout de suite voir les oiseaux qui sont dans votre champ visuel.
Non. En fait, quand on a l'œil sensible à quelque chose, moi, c'est autant un arbre, une silhouette d'arbre qui va m'interpeller...
Une maison, un regard sélectif oiseau.
Ah non. J'aime pas être enfermé dans une boîte, donc de toute façon, dès que je sens que le contour de la boîte devient un peu trop proche de moi, j'active le ressort et puis hop, je fais un petit bond pour essayer d'atteindre une autre boîte à côté.
Et vous accompagnez régulièrement des touristes, des personnes intéressées, des passionnés, des personnes qui découvrent la presqu'île de Crozon, mais davantage avec une visite focalisée sur les oiseaux.
Oui, c'est ça. Enfin, les oiseaux et puis l'environnement, parce que bon, vous voyez qu'ici, par exemple, on a face à nous le site de l'île Longue, hein, donc c'est un site militaire. Et la presqu'île a quelque part cette chance, au niveau emploi, d'être un terrain militaire, mais surtout aussi parce que ça a pas mal préservé, dans un certain nombre d'endroits, le territoire. Du coup, il n'y a pas eu de construction anarchique. Ça a permis probablement de sauvegarder une diversité animale.
Ça, terrain militaire, accès plus limité.
Voilà. Et donc, du coup, une avifaune ou une faune, tout simplement, qui s'est maintenue sur un territoire et qui a été préservée du fait de la présence des militaires.
Amis qui n'ont pas la carte de la Bretagne et du Finistère bien en tête, Crozon, où sommes-nous par rapport à un lieu que la plupart des Français savent identifier, parce que les cartes de France indiquaient quelques villes, dont Brest, toujours.
Voilà, en fait, si vous voulez, pour schématiser la Bretagne, donc ça ne va pas être visible au micro,
mais voilà. Vous montrez trois doigts.
Je vois trois doigts. Et en fait, le doigt du dessus, si on est dans ce sens-là, c'est le Finistère Nord, avec Brest qui jouxte la mer, qui est la rade de Brest. Et le doigt du milieu, ça va être la presqu'île de Crozon. Et le doigt du dessous, c'est le Finistère Sud.
La Bretagne, la meilleure façon de la présenter, c'est avec trois doigts.
La pointe Bretagne.
La pointe.
Parce que le reste, à ce moment-là, ce serait la main, comme ça. Quoi,
voilà. Les trois doigts, oui, c'est assez juste.
Donc nous, on est sur le doigt du milieu, qui en plus, une forme un peu biscornue, puisqu'on pourrait dire qu'il y a l'extrême pointe avec Camaret et la pointe du Toulinguet, une pointe qui fait le retour avec la pointe des Espagnols, et puis le petit creux qui est où on est aujourd'hui ici, avec l'île aux Renards, l'île Longue, et puis donc le port du fret où on est actuellement. Quoi.
Alors à vol d'oiseau, on n'est pas loin du tout de Brest.
Ah oh bah non, si on s'avance d'un petit pas, enfin, on va avoir le bruit du micro. Ouais. En face de nous, la pointe de l'île Longue, vous avez les bâtiments de Brest.
Ouais, ouais. Donc ça fait combien de kilomètres à vol d'oiseau ?
Je sais pas, 3 km, 4 km, un peu plus.
Ah oui ? Ouais. Bon. Mais en voiture, c'est... Ah oui.
Le problème de la voiture, c'est plus d'une heure.
Enfin, c'est ça, c'est une heure de voiture, à peu près 50, je sais pas, une cinquantaine de kilomètres.
50-60
kilomètres. 50-60
kilomètres,
effectivement, pour arriver de Brest. Le cadeau, c'est de découvrir la presqu'île de Crozon.
Oui, et puis un dépaysement qui est quand même assez important, parce qu'on a des paysages quand même qui sont bien différents. On est ici cerné par la mer, donc ici, de ce côté-ci, vous avez la rade de Brest. Si on bascule de l'autre côté, vous allez avoir la baie de Douarnenez. Et si on va à la pointe, l'extrême pointe, avec le Toulinguet, ouais, ou la pointe de Pénir, là, on est face à l'Atlantique. Quoi.
Alors, c'est pas vraiment une île, puisque c'est une presqu'île, mais c'est un peu une vie d'insulaire, ici.
Oui. Nous, on disait toujours, les premiers temps qu'on arrivait à Camaret, que passé la plage de Kerlor, on était dans une île. C'est ce qu'on ressent, il y a quand même une certaine forme de résistance. On a un milieu qui est un peu préservé. La publicité est moins présente. Il y a une solidarité entre les gens qui est beaucoup plus forte. La pêche est toujours un petit peu présente. Enfin, il y a pas mal de choses qui restent et qui font un petit peu un esprit une résistance à quelque chose.
Bon, alors, cela dit, à Crozon, il y a pas mal de circulation. Tout à l'heure, je voulais faire un demi-tour. J'ai dû laisser passer pas mal de voitures. Bon, c'est le week-end. Ici, on est au fret et c'est tout de suite beaucoup plus calme au fret.
Oui, mais parce que le bateau qui vient de Brest n'est pas arrivé, parce que la saison ici est peut-être pas...
Parce que c'est pas la haute saison.
Oui, parce que d'ici quelques jours...
En mai, on est presque à la mi-mai. Ouais.
Et puis d'ici quelques jours, là où on est, on n'aura pas pu se garer.
Ah oui.
Ouais. Quand j'arrive avec mes groupes ici, c'est toujours un petit peu chaud pour le stationnement. Donc regrouper les groupes n'est pas forcément très simple.
Il y a alors une population qui vit au fret, par exemple, parce que là, on voit presque personne, ou personne d'ailleurs. Ce sont des maisons secondaires où il y a une vraie population qui habite là.
Ah non, il y a des gens qui habitent là. Ouais. Là, à côté de nous, il y a un bar. qui était ouvert ce midi sans doute, qui est ouvert maintenant. Bon, bah après, la crêperie, là, on voit que les
crêperies, le presbytère.
Et puis après, les maisons qui sont là, il y en a quelques-unes qui sont habitées, parce que celle du bout, je crois que c'est des gens que je connais. Et puis celle qui a les volets bleus, je connais aussi les gens là. Bah, c'est des gens qui sont
résidents à l'année ici. Alors, il y a un nom qu'on peut associer au développement de Crozon. Et moi, j'ignorais totalement, j'étais surpris, surtout qu'on n'attend pas forcément ici, c'est Peugeot. Eugène Peugeot.
Ça remonte à la fin du 19e siècle, début du 20e, où un certain nombre de familles assez fortunées françaises se sont installées.
Ils ont découvert la Bretagne.
Il y a eu un mouvement au début du 20e siècle de la Bretagne. Là aussi, avait un côté un petit peu plus véridique, où je sais pas, il y avait une espèce de course
authentique.
Authentique, oui, à une certaine forme d'authenticité. Les gens devaient trouver ici, et puis bon, construire une maison à l'époque ici, ça devait coûter. Rien du tout, à un autre prix que les prix parisiens.
Puis ça a encore beaucoup augmenté après la Covid. Hein.
Ouais, bah là, oui, on a effectivement eu le même phénomène. C'est-à-dire des gens qui vendent un appartement ou une maison sur Paris, se retrouvent avec un petit capital que investi ici vous donne un bâti qui, quand même, n'a rien à voir avec ce que vous aviez sur Paris.
Et l'immobilier a monté.
Oui, oui. Il faut que les gens qui vivent sur le coin puissent continuer à vivre sur le coin et à acheter ou à se loger.
Parce qu'après, ce sont les personnes qui sont originaires du coin qui ne pourront plus acheter les maisons chez eux. Quoi.
Voilà, enfin, c'est un peu le problème.
C'est un peu le problème. Hein. Alors, donc, les Peugeot, notamment. Je suis dans une chambre d'hôte qui est une très jolie maison isolée là, à Morgat. Et c'était aussi lié au Peugeot.
Il y a une des maisons à côté de celle où vous êtes, là, qui est une maison qui a été construite par Eiffel.
Alors Eiffel, ah oui.
Eiffel, voilà. Parce que bon, je suppose que la famille Peugeot, quand elle arrivait quelque part, elle a dû amener avec elle des gens de leur... Comme ici, à Camaret ou à Roscanvel, on a eu ça. Paul Roux qui avait amené André Antoine, enfin un certain nombre de personnages de la vie culturelle parisienne de l'époque qui sont venus en équipe, on va dire, dans le coin où ils avaient une certaine quiétude pour retravailler la fascination du paysage quand même. Parce que quand André Antoine répétait sur la plage de Pénats, on ne peut pas rêver plus grandiose comme paysage pour répéter.
Et là, on est au pied d'une petite tour, médiévale, mais qui n'est pas médiévale.
Non, qui n'est pas médiévale, elle date début du 20e siècle, et c'est la famille Peugeot qui aurait construit cette petite tour.
La tour du port.
Voilà, oui, ils ont peut-être voulu que ça ressemble à Saint-Malo, je ne sais pas.
Et puis on est tout près de la galerie Vandenberg, c'est pas un nom breton.
Non, il a sa galerie à Morgat, et puis il a ses deux filles qui tiennent les deux établissements, les yeux dans l'eau.
Ah oui, café-restaurant, ouais, c'est ça. Ça donne envie, hein. Les yeux dans l'eau donnent bien envie de s'installer, alors en terrasse ou à l'intérieur, et c'est directement, effectivement, les yeux dans l'eau.
Voilà, c'est ça.
Serge Kergoat a évoqué Saint-Paul Roux, poète symboliste marseillais, 1861-1940, qui reçut André Antoine, homme de théâtre considéré comme l'inventeur de la mise en scène moderne en France. Il a donné son nom au Théâtre Antoine à Paris, à quelques minutes à pied de la gare de l'Est. Nous retrouverons Serge Kergoat, mais retour à Brest, seconde agglomération de Bretagne après Rennes.
Eul et Tannacher et Brest. Suivez le guide à Brest.
Et avec les jours, avec les semaines. perdu mon élan, j'ai perdu mon haleine. Les loups-garous des gares égorgent les sirènes. Tous les vaisseaux rouillés de Brest meuglent leur peine.
Bienvenue à la PAM tout d'abord. Donc, je m'appelle Ronan Karadec, je suis un des cofondateurs du projet. C'est un projet qui a démarré à la suite d'un dépôt de bilan, puisque la PAM, c'était une imprimerie très renommée.
La PAM, ça veut dire, Ronan ?
La PAM, ça veut dire papeterie armoricaine de Morlaix. Tout le monde à Brest connaît la PAM.
Pourtant Morlaix, dans le nom.
Oui, pourtant Morlaix, c'est une histoire compliquée. Et c'était une entreprise qui avait environ un siècle. Donc quand l'entreprise a fait faillite en 2018, en février 2018, il y avait beaucoup de projets immobiliers qui tournaient autour du bâtiment.
Parce qu'il y a du volume.
Et c'est vrai que moi, je suis brestois d'origine et il y avait beaucoup de ces projets que je trouvais dommage, en fait, les projets de parking, etc. Et donc on s'est dit, à plusieurs, on était quatre, on s'est dit, mais il y a vraiment lieu de faire quelque chose dans ce bâtiment. Et dans les quatre, il y avait le petit-fils du fondateur. Et donc évidemment, lui, il avait un lien affectif avec ce bâtiment. Et donc, on a commencé à travailler sur le projet en mai-juin 2018. Et l'ouverture a eu lieu en janvier 2023.
Alors, où sommes-nous à Brest ?
Alors, on est en plein centre-ville, entre la Pinfeld et deux institutions maintenant.
Donc, la Pinfeld, c'est la rivière.
La Pinfeld, c'est la rivière, en effet. C'est le port militaire. Et on est entre deux institutions, finalement, que sont d'un côté les Capucins, un très grand lieu ouvert il y a quelques années.
Des ateliers.
Et puis, un autre lieu emblématique de Brest, qui est la librairie Dialogue, qui est une librairie de centre-ville, très achalandée, très sympathique. Et voilà. Donc on est vraiment en plein centre-ville, sur un axe très passant de la ville. Et donc c'était un bâtiment industriel, ce qui était une sorte de bizarrerie dans un centre-ville urbain. Donc ici, il faut imaginer qu'il y a quelques années, il y avait des machines qui tournaient, qui imprimaient, il y avait des vibrations, du bruit, du travail, etc. etc. Il y a eu jusqu'à 200 personnes qui travaillaient ici.
Hey Brest, relève la tête, n'écoute pas les rhumes. Hey Brest, crache les arêtes, que tous les beaux parlent. Hey Brest, relève la tête, tu as de la valeur. Hey Brest, crache les arêtes, de tous les arnaques. Hey Brest, relève la tête, n'écoute pas les rhumes. Hey Brest, crache les arêtes, que tous les beaux parlent. Hey Brest, relève la tête, tu as de la valeur. Et Brest, crache les arêtes de tous les arnaques.
Moi, l'entrée m'a fait penser, quand on arrive, à une entrée de cinéma.
En fait, c'est un bâtiment qui date du début des années 50, et donc c'est un style reconstruction, béton. Comme on est dans une zone protégée sur un plan urbanistique, on avait évidemment des contraintes naturelles de conservation du lieu. Et donc on a essayé de garder le plus possible d'éléments historiques. Il y a aussi des considérations financières. C'était un projet qui a été fait avec peu d'argent. Qui dit peu d'argent dit conservation au maximum du bâti existant. Parce qu'à partir du moment où vous démolissez, c'est coûteux.
En gardant des souvenirs, enfin du mobilier, enfin des machines, enfin, etc., souvenirs de l'activité de l'imprimerie.
Je pense que les Brestois, ils n'auraient pas compris la réouverture d'un lieu sans que ce lieu soit ancré dans l'histoire. Vous savez que Brest a été, notamment le centre-ville, totalement rasé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc les Brestois, ils ont une sorte d'amputation.
Du patrimoine, oui.
Qui fait qu'ils sont privés de leur propre histoire.
Donc là où elle reste,
préservons-la. Et là où il y a quelques éléments qui permettent de se raccrocher à un passé, c'est un passé industriel, c'est pas les châteaux de Chambord, mais bon, c'est un passé. Et c'est intéressant et je crois que les Brestois, ils apprécient ça, le fait qu'on n'ait pas tout supprimé pour faire quelque chose de parfaitement neuf. Au-delà de ça, il y a aussi le fait, par exemple, sur le mobilier, vous faisiez allusion au mobilier. Nous, pour des raisons économiques, parce que notre vocation, c'est d'être un tiers-lieu centré sur les questions de transition, on se voyait mal, acheter du mobilier neuf, ça n'avait aucun sens. Donc, en effet, on a passé beaucoup de temps, donc maintenant, c'est une assez grosse communauté, la PAM, on a passé plusieurs week-ends, je peux vous garantir, à frotter les tables, les nettoyer, les repeindre. Je pense que d'abord, il faut se départir de l'idée que la transition, qui est, pour moi, non seulement nécessaire, mais indispensable, pour moi, il faut s'enlever de l'idée que cette transition est forcément synonyme de souffrance. Et donc, nous, on a souhaité, dès le début, que ce lieu soit beau et que ce soit un lieu accueillant. Des plantes, une typographie. Par exemple, on a développé une typographie qui nous appartient, qu'on appelle la PAMAL. On a beaucoup travaillé sur la direction artistique du lieu, et pour nous, il fallait que le lieu soit beau. Parce que finalement, on est aussi de chair et d'os, et que quand on entre dans un nouveau lieu, c'est nos sens qui nous donnent nos premières impressions, c'est notre vue, notre ouïe, etc.
Oh.
pour nous, c'était très important que ce lieu soit accueillant. Par exemple, sur le plan de Louis, quelque chose en général qui est peu considéré, on a beaucoup soigné l'acoustique.
Ce qui fait que
c'est des choses qui se voient pas.
Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde et c'est peu bruyant.
Exactement. Ce qui fait que, par exemple, pour des gens d'un certain âge qui entendent moins bien, ils sont confortables.
Les assises ne sont pas couvertes par le bruit.
Bon, et donc, en effet, par rapport à d'autres tiers-lieux, par rapport à ce que vous disiez, l'entrée, c'est une entrée classique dans un lieu de consommation, de boire un verre, de manger, d'acheter du pain, etc. Et après, évidemment, au-delà, quand on chemine, on s'aperçoit qu'il y a des choses plus en lien avec notre vocation de tiers-lieu.
Il y a pas mal d'espaces liés à la restauration. Alors là, avec de l'humour, hein, le four de Babel qui est au fond, qui est la boulangerie bio.
Il y a trois restaurants. Oui. On a une offre de burgers qui est plutôt centrée pour des personnes plutôt jeunes. Après, on a une offre végétarienne et enfin, on a une offre tout ce qui est poisson.
On est à Brest.
Ouais.
Le bar, n'oublions pas le bar. Hein. J'ai vu toute la diversité de bières qui sont proposées à la pression.
Alors le bar, c'est d'abord une brasserie avant d'être un bar.
Ouais.
Parce que Baril, c'est une des plus grosses brasseries indépendantes de Brest.
Et puis alors, on parlait de tous ces restaurants, effectivement. Mais en revanche, l'espace, la salle pour les personnes qui s'assoient et prennent un verre ou déjeunent, ou je ne sais pas s'ils dînent d'ailleurs.
Ah oui, ils dînent. Ouais.
Ils dînent aussi.
Tout à fait.
C'est une seule grande salle, hein,
ouais,
avec des grandes tables. Alors, l'idée, c'est que ça crée du lien aussi entre les,
ah bah bien sûr,
les visiteurs.
Alors on appelle ça la nef, c'est un vocabulaire un peu religieux. Et de fait, de toute façon, c'est tout le temps plein. Et nécessairement, les gens cohabitent sur les tables et partagent les tables. Et donc, ça donne lieu, en effet, à des rencontres. C'est un lieu qui est propice
à la rencontre. Convivial, mais j'ai l'impression, en étant depuis 24 heures à Brest, que Brest est une ville conviviale.
Ah, mais les Brestois sont formidables. Voilà, c'est simple.
Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des affiches, datent, je suppose, de la période imprimerie.
Ouais.
Donc, des affiches, c'est pas vous qui les avez collées il y a 4 mois, qui sont au mur.
Ah,
donc,
si, on les a recollées.
Ah, vous les avez recollées. Elles n'étaient pas collées là.
Non, on n'a pas en blanc et on les a réimprimées.
Carrément réimprimé.
Oui, parce qu'en fait, vous remarquez que la partie blanche, on a l'impression que c'est déchiré.
Ah oui, c'est vrai.
C'est imprimé.
Ah non, j'avais pas remarqué justement la partie qui me semblait déchirée.
Elles ont été réimprimées en fait.
Donc là, on découvre là, plusieurs affiches. Ça attire le regard du Crazy Horse. Mais c'est pas le Crazy Horse à Paris, c'est le Crazy Horse Le Conquet.
Bah oui, c'était une discothèque du Conquet. Ouais. Bon, à l'époque, il s'appelait comme ça.
On va aller voir l'espace de l'imprimerie.
Ouais. Ça, c'est des Heidelberg. Donc ça, c'est des machines des années 30.
Ah, oui.
C'était la Rolls-Royce de la machine d'imprimerie. Sachant qu'Heidelberg, c'est une marque qui existe encore. Hein. C'est une marque très connue dans le monde de l'imprimerie. Alors évidemment, la technologie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec cette technologie. Il faut savoir que les imprimeurs, c'était les princes des ouvriers, hein, parce que c'était des machines très complexes à mettre au point, c'était des gens hautement qualifiés.
Au Capucin, il y a l'allée des seigneurs, qui étaient les seigneurs des ouvriers.
Ah bah ici, c'est les princes.
Ici, c'est les princes.
Là, vous voyez des photos de l'époque. En gros, l'idée, c'était quoi? C'était que chaque bar, il y avait quelques bars en Bretagne, avait son vin. Mais de fait, le vin venait toujours du même endroit, c'est-à-dire en gros l'Algérie, quoi. Tout le monde avait le même vin, mais chacun avait son vin. Le patron du bar venait à la PAM, demande à la PAM, écoute, est-ce que tu peux me faire une étiquette? Donc la PAM designait, on appelle ça du graphisme aujourd'hui, designait l'étiquette. Ensuite, la PAM fabriquait l'outil, donc c'est la pierre lithographique. Et ensuite, on imprimait 5000, 10 000 étiquettes. C'est le deuxième fond de pierre en France après Épinal. Donc c'est sur de la pierre qui vient d'Allemagne.
Ah oui. Donc c'est lourd, hein.
C'est une pierre qui est très dense. Donc ici, il y a 3000 pierres. Pour donner un ordre d'idée, à Épinal, il y en a 10 000. Et donc en gros, toutes les étiquettes de vin, de cidre, de sardines, de confitures, de que sais-je, de galettes, etc., en Bretagne, hein, venaient d'ici. Donc c'est un fond très important, qui est très intéressant aussi sur un plan graphique. Parce que ça, c'est des graphismes années 30, et donc évidemment inspiré du mouvement, par exemple, Bauhaus, du mouvement floral avant, etc., etc. Donc il y a toute une iconographie qui est vraiment très intéressante.
Et alors ces pierres font à peu près, je sais pas, 5 cm de large. Ça veut dire qu'il fallait de l'espace pour stocker toutes ces pierres.
Hein. Ah oui, il fallait beaucoup d'espace, ouais, et puis c'est très lourd.
Hein, très lourd. Ça va à un côté, hein, j'allais dire, un peu préhistorique quand même.
Ici, l'association s'appelle les Enfants de Gutenberg, c'est pas au hasard. Bah, l'imprimerie, c'est Gutenberg, c'est la capacité finalement à diffuser la Bible, de permettre à tout un chacun, finalement, c'est la diffusion du savoir de fait. C'est ça l'imprimerie. Et aujourd'hui, c'est intéressant, je trouve, qu'il y ait ce lien avec l'imprimerie, aujourd'hui où finalement, on voit bien qu'il y a une forme de régression de l'écrit. Par exemple, aux États-Unis, on pense que dans quelques années, la graphie ne sera plus utilisée au profit de l'ordinateur, quoi, concrètement, c'est-à-dire qu'ils n'écriront plus. Alors, on peut le déplorer ou pas, peu importe. Enfin, en tout cas, on voit très bien que la question de l'écrit, elle est en train d'évoluer fortement. On voit bien que la 5G, par exemple, c'est pas pour permettre aux gens de télécharger des livres, c'est pour du flux vidéo.
Et alors là, on est face à une affiche. Donc, c'était en 1967, des conférences spéciales, Jésus-Christ pendant 3 jours.
Il y avait toutes sortes d'affiches. Moi, celle que je préfère, c'est celle-ci. C'est des milliers de personnes sont venues les entendre annoncer les vérités simples de l'Évangile. À chacun de leurs réunions, ces prédicateurs de Zidane imposeront les mains aux malades. Et la guérison est possible de façon instantanée.
Guérison possible, comme ça, il ne prend pas de risque quand même, non. Si ça n'arrive pas. Mais possible.
Elle est possible.
C'est pas probable, c'est possible, instantané. Tout est possible à celui qui croit.
Bah voilà. Par exemple, ici, début des années 70, 30 organisations appellent la population à assurer le succès de la campagne Un bateau pour le Vietnam. Dans le cadre de cette action, la Fédération du Finistère du Parti communiste français vous appelle à répondre à l'escalade de l'agression américaine par l'escalade de la solidarité en faveur du peuple vietnamien.
Et il y a toujours le Crazy Horse qui n'est pas loin.
Oui, le Crazy Horse, c'est pas loin.
Ça, ce sont des trésors.
C'est une sorte de passé populaire.
Celle-ci aussi, sans éducation artistique, je suis un infirme, pour l'art à l'école.
Alors, l'association qui gère le lieu fait des ateliers de temps à autre. Ils en faisaient un hier soir. Je crois qu'il faisait des t-shirts et qui étaient « Il vaut mieux être un enfant de Gutenberg qu'un enfant de Zuckerberg
». C'est vrai que c'est peut-être pas le lieu, quand on vient visiter Brest, c'est peut-être pas la visite à laquelle on pense en premier, mais ce serait bien dommage de passer à côté.
Ah bah oui, oui, dites-vous, bien sûr. Non, moi je trouve que c'est un lieu formidable, bien sûr. Non, je trouve que c'est un lieu qui est accueillant. Il y a des enfants de 1 à 2 ans qui viennent avec leurs parents, qui fréquentent des jeunes adultes, étudiants, etc., qui fréquentent des gens de mon âge, une cinquantaine d'années, et qui fréquentent des anciens de 70 ans et plus. Et donc pour moi, rien que ça, c'est une réussite.
Ça n'a pas de prix.
Parce que c'est pas si en France, en fait. Alors on a d'autres enjeux à plus long terme que cela, mais déjà c'est un premier pas qui nous semble positif.
Bah, merci beaucoup Renaud.
Je t'en prie Thierry. C'était plaisir.
Où est-il au bout du monde? Cette terre en mer du roi, c'est mon petit bout du monde, où la mer est turquoise. C'est là que ma maison, c'est au début du monde, mon petit bout d'horizon. J'y reste pour le bon sur ma presqu'île de Crozon. Des paysages où l'on s'évade, de nature et de fleurs sauvages, calvaires, fontaines pittoresques, moulins et musées des métiers. Nous ne sommes jamais en reste, et Roscanvel vous aimerez. Est-il au bout du monde, cette terre en mer viroise, c'est mon petit bout de monde, où la mer est turquoise. Crozon, c'est là qu'est ma maison, c'est au début du monde, mon petit bout d'horizon.
Nous sommes toujours très proches de Brest, à vol d'oiseau, au sud de Brest, dans ce Suivez le Guide, dans le Finistère, sur la presqu'île de Crozon, avec Serge Kergoat, mais à une soixantaine de kilomètres par voie terrestre.
Belit à Neschar et Breiz, Suivez le Guide en Bretagne.
Ça paraît tellement paisible ici, et donc si je viens en plein mois de juillet, ce sera autre chose.
Oui, enfin, faut relativiser.
C'est pas la Côte d'Azur.
On n'a pas une surfréquentation, et on peut encore trouver à manger dans un petit restaurant sans trop de difficultés. Mais bon, c'est vrai que ça commence un petit peu à être bien fréquenté. Et bon, on voit déjà les trois week-ends que l'on a eu, trois week-ends avec des lundis fériés. Bon, ouais. On a eu pas mal de monde en presqu'île.
Et l'appel de Crozon.
Ils apprécient. Et là, on est sur le bord du port. Les barques sont là, elles sont utilisées. Les pêcheurs, tous les jours, partent en mer. Enfin, les pêcheurs, les gens qui partent en mer avec ces annexes vont rejoindre des bateaux un peu plus gros où on va à la pêche tout simplement avec ça, poser des lignes, des casiers. Et puis, ben, il reste un petit peu cet esprit de gens qui vivent là et qui vivent encore de pratiques un petit peu liées quand même à la nature où il y a une partie... où on se nourrit encore un peu de la pêche, et puis des coquillages, on ramasse des coquillages à marée basse, enfin voilà, il y a encore une relation un peu chasseur-cueilleur, je sais pas, mais enfin un petit quelque chose encore un peu où la nature est encore un partenaire, on va dire, dans la nourriture quotidienne. Quoi.
Voilà, alors il y a la population humaine, et puis il y a la population volatile.
Oui, ben voilà, oui, c'est sûr qu'avec moi, on peut difficilement passer à côté des oiseaux.
Et donc là, quand je suis arrivé, vous avez attiré mon attention sur cette maison qui est à côté des... petit café, enfin je sais pas, resto, pâtisserie. Là, on s'intéresse aux hirondelles.
Donc c'est une maison municipale dans laquelle il y a des réunions. Sur cette maison, on voit quatre séries de deux nids pour hirondelles de fenêtre qui sont des nids artificiels parce qu'il y a 3 ans, on a eu un petit problème au niveau des 16 ou 17 nids qu'il y avait sur ce bâtiment qui ont été détruits. Et du coup, avec la municipalité, on a mis en place un petit programme avec des...
Un hébergement d'urgence.
Voilà, d'urgence pour les hirondelles. Bon, cette année, avec le froid et le vent qu'il y a, on ne les voit pas beaucoup tourner. Donc,
elles sont dedans ou elles sont là ou elles sont pas là ou elles sont pas là ou elles sont pas revenues.
Elles ne sont pas encore au complet. Normalement, il y avait une quarantaine ou une cinquantaine d'oiseaux à tourner là.
Parce que ça veut dire que les hirondelles, avant de revenir, alors elles passent l'hiver où, les hirondelles d'ici, par exemple?
En Afrique.
En Afrique, donc, ouais. C'est ce qui est fou. Ça veut dire qu'avant de revenir, elles consultent les prévisions météo ici, à Crozon?
Oui, c'est très rigolo. Pour tout dire, parce qu'on va pas partir dans une discussion assez longue, mais les oiseaux utilisent beaucoup effectivement la météo, les fenêtres météo pour faire leur grand voyage, parce que s'ils se trompent dans leur calcul de météo, ils risquent de se retrouver, on entend titit, on entend les hirondelles qui sont pas très loin, et de se retrouver avec un problème, comme c'est arrivé depuis 3-4 ans, là, où quand elles remontent au niveau du Maroc, elles ont une tempête de sable. Après, quand elles se passent en Espagne, elles ont un problème de température ou de tempête aussi, de grosses pluies ou de choses comme ça. Et du coup, à chaque fois, ben, on perd 5, 10, 15% de la population globale. Et ce qui fait que, ben, on sait déjà depuis quelque temps que globalement, tous les ans, on perd 3% de la population de l'effectif nicheur en France.
Et ce qui est fou, c'est qu'elles reviennent, elles sont vraiment équipées d'un GPS. Ouais, elles se débrouillent mieux que les humains.
Je ne sais pas si on peut appeler ça de la technique, mais au moins, elles ont des capteurs et des systèmes de captage qui sont beaucoup plus sophistiqués que ce que nous, on peut avoir. Donc, alors, au niveau du système de calcul, elles utilisent les étoiles, elles utilisent les flux magnétiques terrestres. La Terre est parcourue par des grandes lignes énergétiques et donc les oiseaux arrivent à se caler avec un mixte lumière, astre. Voilà, avec tout ça, ils arrivent à refaire route sur un endroit où...
Précis.
Voilà. Ce qui est fascinant, c'est de savoir qu'un jeune martinet, par exemple, qui n'a jamais été en Afrique, peut tout seul refaire route sur l'Afrique.
Donc une route qu'il n'a jamais faite.
Ouais. Ça, c'est des choses qui sont complètement... moi, je trouve ça fascinant. Quoi.
Ouais.
Ses parents ne sont plus là. Eux sont déjà partis. Il va être obligé de descendre.
C'est transmis, finalement.
Il y a quelque chose de...
Ouais. Une transmission. Non, mais c'est très, très impressionnant. Hein.
Ouais.
Parce que nous... Si le GPS est en panne, on est bien emmerdé aujourd'hui. Hein.
Oui.
J'ai mis le GPS pour venir de Crozon jusqu'au fret, et sinon j'aurais mis plus de temps, à mon avis.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on descende sur la plage ramasser des rigadelles?
Des rigadelles? Que sont les rigadelles?
C'est des petites coquillages. Tout à l'heure, on a parlé du triépi. Et donc, il y a en bord, quand l'eau se retire, ici, il y a beaucoup de gens qui pêchent la coque, la palourde.
Bien sûr, je connais la coque et la palourde.
C'est le mot breton qu'on utilise, rigadelle. Moi, depuis mon enfance, on dit toujours, quand on est à la plage, on allait ramasser des rigadelles. Donc ici, quand l'eau se retire, vous voyez beaucoup de gens avec des croques qui sont en train de retourner ou de creuser dans le sable un peu vaseux et d'extraire des coquillages, des palourdes, voilà. Donc nous, on appelait ça aller aux rigadelles.
Ah oui, aux rigadelles. Une fois que vous les avez ramassées, vous en faites quoi des rigadelles?
Ah ben déjà, on les met à détremper un peu, qu'elles se nettoient dans de l'eau de mer où elles vont filtrer.
Il y a du sable.
Ah ouais, c'est ça. Et puis après, ben, soit on les mange crus.
Certains les mangent même sur place en les ramassant?
Oui, ça c'est possible. Ouais. De temps en temps, si vous avez un petit creux, parce que c'est vrai qu'à force de creuser, on peut avoir...
Bon, c'est là où ça peut être sablonneux, quoi. Ouais. Ou sableux.
Après, farci avec une petite farce un peu dans le style des escargots, beurre à escargot. Et ben, vous préparez ça, vous mettez au four à farcir, et c'est très très bon.
Hein. Je n'en doute pas, mais je n'en doute pas.
Dans les années 30, le port ici était un des plus grands ports de trafic, au niveau des matériaux. Il y avait beaucoup de sable, de matières premières qui transitaient par ici et qui étaient débarquées. Et puis donc, du coup, il y avait, dans les années 30, il y a eu une richesse du port qui était assez importante, d'où peut-être la famille Peugeot, je ne sais pas, mais on arrive à côté d'un endroit qui est le vestige d'un chantier de construction, de rénovation de bateaux.
C'est Stipon.
Ouais, c'est ça.
Stipon et fils.
Ouais.
Constructeur. Donc,
le monsieur.
De navires et réparations en tout genre.
Le monsieur, il habitait cette maison là,
la maison jaune là. Ah ouais, c'est une belle maison. Hein.
Donc on a vu tout à l'heure, il y a une écluse quoi, où la marée est bloquée, où on la laisse passer, où elle est bloquée par un panneau, enfin une espèce de système de fermoir.
Sinon, c'est quand même un étang d'eau salée.
Eau salée, eau saumâtre. Il y a 5 ruisseaux qui arrivent dans cet étang. Là, on voit, vous voyez, les grands points blancs que l'on voit devant nous, il y en a quand même quelques-uns, sont des cygnes, cygnes tuberculés. Et donc, ces cygnes-là sont sur ce plan d'eau. Des cygnes, ils vont nicher tout au fond, là, dans la roseraie ou roselière. Oui, roseraie, c'est pour les roses. Roselière, c'est pour les roseaux. Et puis, toute cette zone-là va être habité par des oiseaux qui vont nicher pendant... Maintenant, on est 15 mai, donc ça va se terminer, on va dire, vers fin juillet.
Pas de pêcheurs, ici?
Il y a quelques pêcheurs à la ligne, de temps en temps, mais c'est un espace protégé. Hein, donc là, c'est le conservatoire du littoral. Oui. C'est une belle étendue, et donc, vous voyez, par contre, ce qui est dommage, ce sont les... Attention, il y a un trou ici.
Oui. Ouais.
Les cabanes sont un peu en train de partir.
C'est dommage parce qu'elle a un vrai charme. Hein.
Ouais, oui, c'est goudronné, hein, c'est des planches goudronnées comme on fait pour les bateaux.
Elle est abandonnée. Là.
Elle est abandonnée.
À l'abandon. Ouais.
Ça va très vite se dégrader et tomber. Hein. Moi, j'essaye de militer pour qu'il soit fait à l'intérieur des affûts. Parce qu'en fait, l'hiver, ici, quand l'eau se retire et joue avec les marais, vous avez plein d'espèces de limicoles ou d'autres oiseaux qui sont là et qui sont juste à proximité. Donc si on pouvait les observer...
Faire un point d'observation ici.
Ce serait très bien. Quoi.
Say.
reconnaître que la cabane est un peu à l'abandon et puis les bateaux en face, ils sont un peu mal en point aussi.
Bah ça c'est quelque chose qui...
Des bateaux en bois.
Ouais, des vieux bateaux qui ont été soit construits ici...
C'est un peu cimetière, là.
Ouais, c'est un peu... Oui, mais c'est cette notion-là, à Camaret, quand je suis arrivé, j'avais été étonné parce que, donc, il y a des vieux bateaux, et puis au début que j'y étais, c'est-à-dire dans les années 94-95, on trouvait au pied des vieux bateaux, de temps en temps, un ancien marin un peu âgé, avec un pot de peinture, et puis il donnait un petit coup de peinture sur les vieilles coques. Je trouvais ça très bizarre. Du coup, je m'étais un petit peu renseigné, j'avais discuté avec eux, et puis ben, en fait, c'était leur bateau qui était là. Eux avaient fini leur carrière, le bateau était en fin de... Il n'était pas vendable ou pas transmissible, et puis du coup, ben, ils venaient l'échouer sur le sillon, et puis ensuite, ben, ils lui donnaient de temps en temps un petit... Parce que comme ils disaient, à l'époque, j'ai confié ma vie... Oui. Toute ma vie de professionnel à ce bateau-là, je lui dois bien ça, un petit coup de peinture de temps en temps.
Pour lui donner une espèce de dignité, on pourrait dire ça.
Ouais, non, mais je trouvais ça.
Ouais, je trouvais
que c'était une belle démarche et voilà. Donc.
Et là, non. Ou alors les propriétaires, ils sont partis aussi.
Ouais, hein. Ils sont partis. Je pense que parce que ça, c'est des bateaux qui commencent quand même à avoir un peu de bouteille. Mais ceci dit. Si on était sur le sillon de Camaret, je pense à un bateau qui s'appelle le Maïtena, qui est peut-être échoué depuis, on va dire, 10 ans, peut-être 10, 12 ans. Quand on voit à quelle vitesse il s'est dégradé et comment ça s'abîme très très vite, ces bateaux ne sont pas forcément...
Pas forcément si vieux que ça.
Voilà, ouais. Ils ne sont pas là.
Qu'est-ce qui les fait abîmer si vite? Le vent, enfin le sel, la pluie, je sais pas,
ouais,
la pluie salée, enfin les embruns ou...
Pas que ça, parce qu'apparemment quand on parle avec les gens qui travaillent le bois, les gens qui construisent les bateaux, ils disent qu'il n'y a rien de pire pour un bateau que de rester hors de l'eau. Parce que du coup, le bois travaille et puis au bout d'un certain nombre de tensions, il est mouillé, il se rétracte. Alors que quand il est tout le temps dans l'eau, il travaille tout le temps de la même façon. Petit à petit, les planches entrent en tension, ça claque.
Ah
et
oui.
Puis voilà. Donc,
on pourrait dire que les bateaux meurent de déshydratation.
Ouais, c'est presque ça. Ouais. C'est un peu comme les marins. Non, c'était du
bien. La palue et Keller sont autant de lieux merveilleux. Kerbonne, c'est vrai qu'on en a plein les yeux. L'île Vierge est un endroit de rêve, là où le temps s'arrête un peu. Roseau, est-il au bout du monde, c'est le père en berdiroise, c'est mon si bout du monde, où la mer est surpoise. Roseau, c'est là qu'est ma maison. C'est au début du monde, mon petit bout d'horizon, qui reste pour de bon sur ma presqu'île de Crozon. Mais quel que soit l'itinéraire, la presqu'île est un cœur qui bat. C'est à l'autre bout de la terre. Je voulais guider vos pas, monde d'authenticité, où la nature est préservée.
L'ornitho Serge Kergoat reviendra dans la prochaine émission en Bretagne. Terminons ce Suivez le Guide dans le Finistère à Brest et découvrons avec sa directrice l'hôtel Spa Le Conti, véritable joyau art déco en plein centre-ville, rouvert après travaux, 2 semaines seulement avant cet enregistrement au printemps 2023.
Eulet-Tanacher et Brest. Suivez le guide à Brest.
Bonjour et bienvenue à l'hôtel Le Conti à Brest. Donc je suis Rosane Parer, la directrice d'exploitation de ce bel établissement.
Rosane, cet hôtel Conti, mais continental, a ouvert ses portes pour la première fois au début du XXe siècle, enfin juste avant la Première Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Il a été construit en 1913 et effectivement, son ancien nom était Le Continental, gardé jusqu'à très récemment, avant cette période de travaux. Et donc là, on a voulu donner une nouvelle dynamique à notre établissement. Et donc, c'est de ça passer aussi par un changement de nom, tout en gardant l'histoire, en l'appelant l'hôtel Océania Le Conti.
Voilà, et on perd le Nantal, mais je suis sûr que les clients fidèles disaient oui. On se retrouve au bar du Conti et pas du Continental.
En effet, et c'est pour ça qu'on a choisi de garder ce surnom donné par les Brestois, Le Conti, et de lui donner en fait son nom commercial.
C'est un hôtel de style Art Déco.
Tout à fait, style Art Déco, qui rappelle les paquebots des années 20, et donc on l'a mis en lumière aussi dans cette nouvelle décoration qui a été entièrement revue, repensée, sur le côté Art Déco modernisé avec cette ambiance transatlantique.
Cet hôtel qui est intégré dans un groupe qui est un groupe plutôt breton.
Le groupe donc Océania Hôtel, où le siège social se situe justement à Brest. Alors c'est un groupe national mais familial.
National familial, voilà. mais dont les établissements sont en Bretagne.
Le cœur a été d'abord en Bretagne, mais on trouve tous les établissements partout en France. On a un maillage assez important à Paris, à Dijon, à Clermont-Ferrand, Marseille, Aix-en-Provence, et bientôt d'autres établissements dans d'autres villes à venir.
Même s'il n'y a pas d'océan, mais il y a Océania.
Exactement. Oui, c'est aussi un repère pour les Bretons.
Une espèce d'ambassade bretonne.
Peut-être. Et en tout cas, il y a des clins d'œil. Un Breton saura qu'il pourra trouver du beurre salé rapidement.
Vous êtes bretonne, Rosane?
Alors, je ne suis pas originaire de Brest, je suis originaire de Rennes, mais je suis bretonne. Et avant de pouvoir venir à Brest là pour l'ouverture, puisque je viens pour l'ouverture de l'établissement, j'étais à Vannes.
Alors, vous ne pouvez pas dire, parce que j'ai appris que si on est vraiment brestois du sang, on dit « je suis de Brest même », mais vous ne pouvez pas dire ça.
Alors maintenant, je peux le dire parce que je suis brestoise aujourd'hui. J'ai mon adresse brestoise, donc ça y est, je peux enfin dire que je suis de Brest même.
Dans sa prison de verre, le sable se débat. Tandis qu'il se délecte à regarder lutter comme de pauvres insectes les petits grains dorés, il oublie d'exister, devient lentement lui-même prisonnier, esclave du temps.
On entre dans ce magnifique hall, ce lobby de l'hôtel, où on sent la mer. C'est une peinture?
Oui, c'est une œuvre de Jim Sevelec et qui a été restaurée pour pouvoir être mise en lumière dans cette nouvelle décoration.
Nous sommes dans le Finistère, donc la carte du Finistère. En relief.
C'est une œuvre d'art.
Les habitants qui sont représentés.
Voilà, les habitants sont représentés. On retrouve les monuments principaux de Brest et du Finistère. Et donc, c'est une carte qui est assez détaillée, finalement, sur l'histoire du département.
Il y a des vitraux également. L'idée, c'était vraiment de restituer la splendeur de cet hôtel.
Tout à fait. C'était de conserver l'histoire et d'embellir l'établissement par son histoire, par le côté art déco. Vous voyez les indiscrets, les fauteuils indiscrets. Là, on a en fait deux tables qui sont assemblées l'une avec l'autre. Et vous avez une table récente avec une table d'époque, qui est une table de café de bar qui était dans les sous-sols de notre établissement.
C'est un gros investissement.
Ah oui, c'est un investissement important, qui doit être à la hauteur de l'établissement en fait, et de ce qu'on veut en faire et de ce qu'on veut proposer aux Brestois, aux Brestoises, à toutes les personnes qui en fait viendront dans l'établissement, qui devient presque un musée où on vient presque visiter l'hôtel, comme on vient visiter un musée.
Et les Brestois se disent, on va prendre une chambre, on ira dormir dans le nouveau Conti, peut-être, même si on habite à 200 mètres.
Eh bien, vous avez raison, puisque ça a été le cas. J'ai déjà eu des personnes qui habitent de l'autre côté de la place et qui souhaitaient venir. Et en fait, ils m'ont dit, c'est un véritable voyage de passer la nuit dans l'hôtel parce que c'est différent, parce que c'est une expérience, en fait, une vraie expérience. Et l'idée, c'est ça. C'est l'expérience du voyage sur une nuit. On est un peu hors du temps, hors de chez nous, certes, mais hors du temps.
Toute la décoration et des chambres sur le thème du voyage.
Oui, sur le thème effectivement du voyage, de l'art déco, du voyage dans le temps aussi, dans le temps des années 20.
On a l'impression d'être un peu dans une cabine de bateau quand on est dans sa chambre.
Tout à fait, en plus grand. En effet, en tout cas, il y a des courbes, les formes, tout a été pensé par rapport au thème effectivement des croisières transatlantiques en fait. Hein.
Quand on prend sa chambre, donc le réceptionniste dit bienvenue à bord.
Oui, non mais c'est vrai que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Il faudrait peut-être qu'on le suggère. Oui, oui,
Bonne traversée. Il y a une traversée de la nuit de toute façon.
Ouais.
Alors c'est un hôtel qui vit plusieurs vies, parce que l'hôtel a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était avant d'être détruit, qui a accueilli une autre population vraiment très différente ici.
Pendant la guerre, l'hôtel a été occupé par l'armée allemande.
Le siège de l'état-major.
C'était le siège, donc oui, bon nombre d'histoires se sont passées ici et d'événements...
Pas toujours sympa.
Voilà, malheureusement à Brest, c'est une ville qui a été détruite, hein, comme d'autres villes en France.
Mais c'était un peu stratégique, Brest.
Cet établissement a quand même eu la chance de pouvoir conserver en partie sa structure. Cette structure aujourd'hui qu'on retrouve des années 20 en fait.
Comme le chant des pierres qui résonnent en silence, comme l'eau qui serpente et qui gronde sous moi. Tu sais, je reviendrai dans ma terre d'enfance, au pays des rêves, des fées et des rois.
J'ai lu que le bar, pour lui, c'est une vraie réouverture parce qu'il a été fermé depuis 1999.
Et là, c'était une vraie institution brestoise. Donc, c'était une ouverture qui était extrêmement attendue.
Bar-restaurant aussi ?
Oui, bar-restaurant. Ah oui. Donc, on a pu conserver le bar d'origine.
C'est donc ici, Rosen, en gros, qu'on vient boire le dernier verre quand on est à Brest.
Ah oui, tout à fait. Le premier et le dernier. Parce que le premier, c'est aussi possible puisqu'on ouvre à partir de 7h le matin.
Mais ce n'est pas le premier cocktail à 7h du matin.
Par contre, on peut le prendre à partir de 11h. Ouais. Nos barman sont fin prêts. Et puis après, on peut prendre donc le déjeuner. L'après-midi, si vous voulez, on peut prendre plutôt une petite pâtisserie.
Bretonne.
Voilà, une petite pâtisserie bretonne ou autre, version à salon de thé. Puis après, effectivement, on prend le premier verre sorti du travail. On peut, bien sûr, se retrouver ici avec ses amis, ses collègues.
On est vraiment en plein centre de Brest, ici.
Oui, on est en plein centre de Brest. Le bar a sa propre entrée, pas loin de Siam, en fait. Hein. Donc Siam, c'est la grande avenue en Brest-Centre. L'avantage, c'est qu'on est aussi pas loin de la gare. 5-10 minutes à pied et pas très loin du port non plus.
C'est une équipe importante pour faire un hôtel comme celui-ci, un hôtel de 73 chambres.
Nous avions 73 chambres, vous n'avez pas tort, avant. Maintenant, nous avons 76 chambres, dont 5 suites. Au dernier étage, nous avons deux belles suites avec vue sur la rade de Brest et tout Brest. Alors là, un point de vue exceptionnel.
Là, on a envie de rester en rade, hein, dans la suite.
Oui, là, on a envie de rester dans la suite et tout sera fait pour que, si on souhaite rester dans la suite, on a tout ce qu'il faut. Bah, le room service, évidemment. On a des terrasses, donc en cas de beau temps, bah, on peut profiter de son repas dehors, vue mer. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et c'est vrai que c'est de belles suites, tout à fait.
Les deux suites de l'hôtel Conti rendent hommage à des artistes, je suppose, très très connus en Bretagne, mais que je ne connaissais pas du tout, dont j'entends parler pour la première fois.
Oui, en effet, nos deux belles suites, donc on leur a donné le nom de la suite Jeanne Malivelle et de Jim Sevelec, qui sont deux grands artistes du mouvement Sesbreur. C'est donc un mouvement entre les deux guerres. Et donc, ce sont des artistes qui étaient de Brest, en fait.
Ça, donc, de la fin du 19e siècle, et ils ont vécu... Bon, elle est décédée jeune, mais lui est décédé dans les années 70.
Oui, oui, tout à fait. Et donc, on a la chance d'avoir une œuvre d'art de Jim Sevelec, donc dans le hall.
La fameuse carte de la Bretagne en 3D, en relief. Hein. Et ça représente, pour faire tourner une maison comme celle-ci, une équipe de combien de personnes ?
Autour de 40 personnes. Pour assurer le spa, le service du bar.
Parce qu'il y a le spa aussi, important.
Et ensuite, on va avoir une partie piscine, un grand jacuzzi qui va être intégré de façon juste magnifique. Et ensuite, un sauna. On a vraiment cet espace humide et puis cet espace de bien-être.
Et puis, je suppose que pour bien parler du spa, il faut que tout le personnel le teste aussi.
Ah oui, oui, oui. Les demandes se font nombreuses. D'ailleurs, en ce moment même, vous devez le savoir peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, notre spa manager faisait des tests et s'entraînait sur nos collègues. Il avait peur de ne pas avoir de postulants, mais non, il n'y a pas de problème. On a trouvé, c'est important. Oui, oui.
Vent du nord, vent du sud, vent de l'est et vent de l'ouest. Bienvenue à Brest. On va retrouver puis la manne, des petites crêpes et des galettes. Tu ne seras pas en reste. Bienvenue à Brest. Vent du nord, vent du sud, vent de l'est et vent de l'ouest. bienvenue à Brest. Fabre-tout, Queen Amman, des petites crêpes et des galettes, tu ne seras pas en reste. Bienvenue à Brest.
Vous, Rosane la Rennaise, vous êtes tombé sous le charme de Brest. Enfin, vous étiez déjà venu, mais maintenant que vous y vivez, c'est pas tout à fait pareil.
Oui, vraiment, vraiment et sincèrement, c'est vrai que Brest, c'est une belle surprise parce que l'accueil y est extrêmement chaleureux. On voit que les Brestois défendent leur ville incroyablement et savent la vendre en fait. C'est vrai que au-delà de Brest, tous les alentours sont juste magnifiques. C'est une ville dynamique avec une offre culturelle, de congrès. C'est une ville qui vaut le détour, vraiment. C'est chouette, c'est une belle opportunité de pouvoir découvrir cette ville.
Et vu de loin, pourtant, c'est pas une ville à laquelle on pense pour son potentiel touristique et centre d'intérêt. Si on doit citer des villes, en Bretagne, on va pas citer Brest en premier. Hein.
C'est vrai, vous avez raison. Alors qu'en fait, on peut y découvrir des choses incroyables, et encore plus incroyables parce qu'on ne le sait pas. Peut-être qu'on ne le sait pas assez.
On arrive avec des a priori.
Ça, c'est sûr. On ne peut pas dire le contraire. Tout le monde arrive avec des a priori et ils sont vite tombés, généralement. Moi, j'avais entendu que du bien du Finistère Nord. Ben, je dois avouer qu'effectivement, les plages de sable fin et l'eau turquoise, ce n'est pas une légende. Il y en a bien. Non, c'est une ville, une région à un potentiel énorme.
Eau turquoise, mais un peu fraîche quand même.
Oui, mais avec une eau fraîche, on peut mettre des combinaisons. Par exemple, Longe-Comte est vraiment très, très populaire dans la région. Donc en fait, il y a plein de sports aquatiques qui peuvent se pratiquer en eau un peu plus fraîche.
Et sports aquatiques dans le vent, et de ce côté-là, le vent est à peu près garanti. Hein.
Oui, voilà, donc pour le plus grand bonheur des surfeurs, parce que c'est vraiment des spots aussi hyper intéressants pour les surfeurs, pour les planchistes, enfin...
Kitesurfistes, etc.
Ouais.
Quand on dirige un établissement comme celui-ci, un hôtel comme celui-ci qui est en train de renaître, je suppose que pour vous, c'est très excitant, Rosane. Hein.
Ah oui, c'est un véritable challenge, comme on dit, de pouvoir... maintenant être à la hauteur de la restauration, de la transformation de l'établissement et des attentes des Brestois et des clients qui viendront dans l'établissement. Donc c'est très excitant. Avec toute l'équipe, on est enjoué, motivé de pouvoir répondre à toutes ces attentes.
Ce suivi de guide. Merci. Dans le Finistère. Kenavoir Véchal, au revoir et à bientôt en Bretagne. Merci Rosane Parer, Ronan Karadec et Serge Kergoat. Serge que nous retrouverons prochainement. Suivez le guide en Bretagne, près de la complicité de Clémence Karadec, Finistère 360, et Christine Martin pour ses précieux conseils et sa voix. Réalisation, Roman Feocchio, les sites internet tout commence en finistère.com, Océania Hôtel pour le Conti, vous retrouverez très facilement Serge Kergoat en ligne et peut-être vous accompagnera-t-il un jour sur la presqu'île de Crozon.
Kenavo Arvéchal, au revoir et à bientôt.
C'est un pays, fallait que je t'en parle, car je l'ai dans le cœur, comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans, c'est pas normal, à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les conquérants, à pas d'appli ou je sais pas quoi. Moi j'aime mieux sous un ciel qui chiale, balayé par un vent nord. Là-bas c'est la mer qui donne et qui reprend quand cela lui plaît. Et ce putain qui résonne quand elle a pris.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Montserrat Avis.